Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous continuons aujourd'hui une série de discussions sur la croissance spirituelle du chrétien. Et la parabole bien connue du semeur nous servira de référence.
À présent, Sandra va lire cette parabole qui raconte une histoire courte illustrant des vérités spirituelles fort importantes. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9.
Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit : Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Nous sommes contents d'accueillir Étienne sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Il va nous aider à mieux comprendre le sens de cette parabole. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons parlé de la semence tombée au bord du chemin qui finit par être mangée par les oiseaux. Nous avons appris que cette image représente les efforts entrepris par le diable, son action pour empêcher les gens de recevoir la parole de Dieu, la Bible, et de croire en elle. Le diable sème des mensonges, des idées erronées qui séduisent le monde. Et la seule façon de discerner ces mensonges est de croire ce que l'Éternel déclare. Et c'est ainsi que notre foi grandira.
Merci Yann. Aujourd'hui, nous allons parler de la semence tombée dans le sol rocailleux. Ces graines n'avaient pas beaucoup de racines. C'est pourquoi, exposées au soleil ardent et par manque d'eau, les plantes qui se sont développées ont vite séché et ont été brûlées.
Étienne, Jésus, un petit peu plus tard, a expliqué le sens de cet extrait de la parabole, me semble-t-il.
Oui, lisons ce qu'il déclare. « Puis il y a celui qui reçoit la parole sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou de la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. »
Jésus mentionne ici ce qui semble répondre favorablement à l'enseignement de la bonne nouvelle, mais qui pourtant font très peu de progrès spirituel. Certains allant même jusqu'à ne plus croire en Dieu. Quelle en est donc la raison?
À première vue, il semblerait que cet état de choses soit dû aux épreuves, à la souffrance et à la persécution que ces personnes rencontrent. Cependant, un regard plus attentif sur cette parabole révèle que leur véritable problème est tout autre.
Expliquez-nous votre pensée.
Est-il vrai que la souffrance et l'épreuve vont ralentir ou empêcher toute croissance spirituelle? Tôt ou tard, tous, nous serons confrontés à la souffrance, car les épreuves et les difficultés sont le lot commun de tout homme, de toute femme. Et pourtant, malgré les tourments, les vies brisées, nombreux sont les chrétiens qui parviennent à une grande maturité spirituelle, au sein même de la plus terrible des épreuves. Pour cela, les épreuves servent de véritables tremplins, contribuant à enrichir leur relation avec Dieu, leur Père. Pour d'autres, l'opposé malheureusement est vrai. Comme il est décrit dans la parabole, la souffrance peut empêcher certains de faire des progrès spirituels au point d'affaiblir leur foi et d'abandonner toute relation avec Dieu lui-même. Deux personnes subissant une épreuve similaire réagiront donc différemment dans le domaine de la foi.
Et la parabole nous dit-elle pourquoi?
Elle apporte, me semble-t-il, un indice important. En parlant de ceux qui finissent par abandonner l'Éternel quand ils sont confrontés à l'épreuve, Jésus affirme que ces personnes n'ont pas laissé la parole prendre racine dans leur vie. Il ajoute qu'elles sont inconstantes. Notons-le bien donc, ce n'est pas les épreuves en tant que telles qui entravent leur croissance spirituelle, mais le fait que ces personnes n'ont pas laissé la parole de Dieu prendre racine dans leur vie. Par conséquent, elles ne parviennent ni à faire face aux aléas de la vie, ni à surmonter ce qui les accable.
Autrement dit, celui qui écoute la parole de Dieu, qui croit en elle et la met en pratique, sera plus apte à persévérer le jour où l'épreuve se dressera sur son chemin.
Absolument. C'est d'ailleurs l'enseignement aussi du psaume 1 que nous pouvons lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Dans ces versets, nous découvrons l'illustration de l'arbre qui réussit à produire du fruit malgré la terre aride, malgré la chaleur et la sécheresse auxquelles il est exposé. Mais pourquoi parvient-il à produire du fruit? Eh bien, parce qu'il est bien enraciné près d'un cours d'eau. La leçon qui se dégage de ce psaume est évidente. Le chrétien réussira à produire un fruit spirituel, même dans les situations les plus adverses et périlleuses, dans la mesure où il médite jour après jour la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible.
Ainsi, nous serons mieux préparés le jour où l'épreuve frappera, si nous cherchons aujourd'hui à mettre en pratique l'enseignement de la Bible. Mais Étienne, comment faire pour tenir ferme quand les difficultés surviennent?
À cette fin, nous devons profiter des ressources à notre disposition pour mieux comprendre la Bible et par elle fortifier notre foi. Lisons la Bible, lisons aussi les livres qui expliquent fidèlement son message. Il est vrai que beaucoup de nos auditeurs ne possèdent peut-être pas de Bible. Alors, assistez aux réunions où la parole de Dieu est enseignée et écoutez des émissions bibliques à la radio sont d'une extrême importance. D'autre part, il est aussi du devoir des pasteurs et des responsables d'église de s'assurer que les croyants reçoivent un enseignement clair et solide, leur permettant de faire face à toute éventualité, de surmonter toute épreuve. Il faut comprendre l'enseignement biblique, se rapportant à la souffrance, et ensuite le transmettre à l'Église. Malheureusement, certains peuvent apporter des doctrines erronées qui, au lieu de préparer le chrétien à tout surmonter par tant d'épreuves, l'égarent et l'empêchent d'y faire face. Je voudrais encourager nos chers amis auditeurs en leur affirmant qu'il est possible de croître spirituellement, même plongé dans les pires des circonstances. Il est possible de porter du fruit, même confronté à la plus difficile des épreuves. Mais pour parvenir à une telle maturité spirituelle, l'enseignement de la Bible doit tenir la première place dans nos vies. Nous devons y croire, croire que Dieu est avec nous quoi qu'il arrive. Lors de tremblements de terre, sous l'effet des mêmes ondes de choc, certaines maisons s'écroulent, alors que d'autres restent debout. Pourquoi? Parce que pour les unes, les fondations sont mauvaises et que pour les autres, elles sont correctement bâties. Les épreuves aussi secouent notre foi. Allons-nous tomber, vaincus par elles, ou rester debout jusqu'au jour où nos yeux verront Dieu? La réponse à cette question dépend de notre attachement à la parole de Dieu, ainsi que de la confiance que nous lui accordons.
Le moment est venu d'introduire notre courte méditation biblique. Dans la série que nous poursuivons aujourd'hui, nous réfléchissons sur le sens des divers noms et titres attribués à Jésus, celui qui demeure au centre des quatre évangiles.
Nicolas est de retour parmi nous et le nom qu'il va étudier aujourd'hui est Emmanuel. Que signifie donc ce nom? Écoutons la suite de notre émission pour en savoir plus.
Bonjour à tous. Nous allons commencer par écouter un récit de la Bible dans lequel Jésus est appelé Emmanuel. Il se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 23.
Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ».
L'évangéliste Matthieu nous révèle lui-même la signification du nom Emmanuel, qui est « Dieu est avec nous ». En fait, Matthieu s'appuie sur une prophétie annoncée dans le livre biblique d'Ésaïe, une prophétie qui déclare qu'un jour, une jeune fille vierge donnera naissance à un fils et que ce fils prouvera, de façon extraordinaire, que Dieu en personne demeure avec son peuple. Or, dans le passage de l'évangile lu, un ange venu de la part du Seigneur vient annoncer à Joseph, la fiancée de Marie, que le bébé qu'elle porte accomplira cette prophétie. Il sera Dieu parmi les hommes, Dieu avec son peuple, Dieu avec nous. Nous entrons ici dans le mystère de l'incarnation. Jésus était réellement homme, un homme dans tous les sens du terme, et pourtant la Bible affirme qu'il était aussi Dieu parmi nous, Dieu lui-même en personne parmi son peuple. Jésus a accompli des miracles et des prodiges qu'il n'aurait jamais pu réaliser, à moins d'être réellement Dieu, d'être le Tout-Puissant parmi les hommes. Jésus a parlé de lui-même en termes qui auraient été blasphématoires, à moins d'être véritablement Dieu avec nous. Jésus a mené une vie juste et droite, et ses proches en ont témoigné. Il est sans péché, innocent de toute faute. Nul homme n'aurait pu atteindre une telle perfection, à moins d'être Dieu parmi les hommes. Mais pourquoi Dieu est-il venu parmi nous, en la personne de Jésus-Christ ? Nous avons déjà découvert la réponse à cette question lors d'une méditation précédente. Dieu est venu en sauveur. Dieu est venu nous sauver de nos péchés. Il est venu pour nous assurer de son amour, amour qu'il a prouvé en mourant sur la croix, afin de payer le prix de nos péchés. Son amour consiste à nous pardonner nos péchés. Son amour consiste à nous offrir un nouveau départ dans la vie. Son amour consiste à nous donner une espérance éternelle. En Jésus-Christ, Dieu est avec nous. Il s'agit d'un mystère insondable, en effet, mais aussi d'une nouvelle merveilleuse. Nous pouvons courir vers Jésus et lui confier nos vies, sachant qu'il sera avec nous et nous prouvera son amour avec constance et fidélité tous les jours de notre vie.
Merci Nicolas. Il est fort rassurant de savoir que Jésus est aussi appelé Emmanuel, car il demeure réellement avec nous, quelles que soient les circonstances de nos vies.
Le moment est venu de vous dire au revoir et de vous remercier pour votre écoute.
Alors, à la prochaine et que Dieu vous bénisse.